Bonjour Nicolas Beuglet.
Bonjour.
Vous êtes écrivain de romans policiers, bienvenue en Sarthe. Vous êtes déjà venu, je crois.
Oui, l'année dernière.
Le dernier roman que vous avez écrit, Transylvania, qui est paru le 18 septembre aux éditions XO Éditions, raconte l'histoire d'une nouvelle inspectrice à qui on confie une enquête de meurtre sur laquelle elle donne tout, puisque l'accomplissement de cette enquête a pour but à la base de valider entre autres ce nouveau poste d'inspectrice. Sauf qu'il ne s'agit pas d'un meurtre banal puisque le cadavre est retrouvé dans le château de Bran, connu pour être la propriété du comte Dracula. Et on découvre, entre autres, un tatouage énigmatique et très récent sur le corps, ainsi que d'autres indices assez étonnants. Tout au long de l'histoire, c'est, on peut le dire, un jeu de pistes pour cette inspectrice qui va découvrir à la fin pourquoi tous ces éléments qu'elle a découverts petit à petit se sont trouvés sur son chemin. Le lecteur suit avec cette héroïne une enquête haletante, mais la tournure va prendre un côté plutôt très engagé. Est-ce que vous avez cherché à faire passer un message qui vous tient à cœur ?
Ah oui, bah, comme dans tous mes livres en fait, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une partie enquête, mystère, suspense, avec des décors les plus dépaysants possibles, qui vous emmène là cette fois en Transylvanie, et puis après dans d'autres régions un peu plus mystérieuses du côté de l'Allemagne, mais qui sont aussi très très intéressantes en termes de d'inconscient collectif, de mythologie, de contes, etc. Et au final, oui, il y a un sujet, comme on dit, civilisationnel à l'intérieur du livre, il y en a même plusieurs, et qui sont portés par celui qui est le méchant, en tout cas l'ennemi, dans Transylvania. Alors après, est-ce qu'on rentre dans le détail ou pas de ces sujets civilisationnels, je sais pas, mais ils sont importants. Oui.
On parle d'un livre fondateur dans la description et dans le roman. Est-ce que Transylvania, du coup, n'a pas un peu ce rôle-là aussi, finalement?
Oui, alors effectivement, il y a un sujet à un moment dans le livre où le personnage... désigné comme étant l'ennemi, se pose des questions assez inquiétantes sur en fait le déficit de lecture qui est en train de toucher tout l'Occident depuis des années, et il se dit mais jusqu'où ça va descendre et jusqu'où ça va mener et qu'est-ce que ça va faire comme nouvelle civilisation, comme nouvelle espèce humaine, et il se demande un peu comment il pourrait faire bouger les choses à sa manière. Donc vous verrez par vous-même que c'est pas forcément très très moral, mais lui il se dit bah, le livre le plus vendu au monde depuis des années et des années, c'est la Bible. Est-ce que aujourd'hui on serait capable de reproduire un succès aussi phénoménal ? Et si on devait le faire, comment on ferait ? Quel serait le sujet qu'on traiterait sur ce livre pour être sûr que des milliards de gens le lisent pendant des centaines et des centaines d'années, et à qui on ferait appel pour l'écrire ? Donc c'est la question qui se pose pour écrire ce livre, on va dire, fondateur. Maintenant, de là à dire que Transylvania est le livre en question, non, je vais pas aller jusque-là. Mais en tout cas, Transylvania a au moins un objectif, c'est celui de vous apporter énormément de plaisir à sa lecture.
L'enquête mêle le mythe vampirique, les contes, l'histoire et le mystère. Vous avez d'ailleurs, du coup, justement réussi à mélanger le fantastique avec le réel et le thriller. Comment vous arrivez à créer cet équilibre de manière à ce que le lecteur soit pris dans le roman ? Je sais que moi, personnellement, je ne suis pas très roman fantastique, et pourtant, c'est un roman qu'on dévore très facilement, en fait.
Mais vous l'avez trouvé fantastique ?
Il y a un peu de fantastique dedans, je trouve, ouais.
Intéressant. Où ça ?
Je veux pas spoiler non plus, mais je dirais plus vers la fin, sans vouloir spoiler, quand elle découvre un peu tout ce qui se passe, quand elle rencontre le méchant.
Ouais, ouais. D'accord.
Ouais. Ouais,
ouais. Ouais, c'est pas du fantastique. Hein. Le fantastique, c'est quand ça va au-delà du réel. Là, on reste dans le réel en permanence. C'est un réel qui voit grand, mais je pense pas que ça soit du fantastique. Et c'est très important, c'est pour ça que je me permets de vous poser les questions, c'est que quand on écrit, en fait, on fait hyper gaffe à la frontière. Parce que si on verse, nous, dans le fantastique, en tout cas, moi, si je verse dans le fantastique, ce qui peut arriver peut-être sur d'autres livres, je sais que c'est pas le même public, en fait, qui va être intéressé par mon livre que celui qui veut que du réel, que du fondé, que de l'info bétonnée, etc. Et moi, je suis plutôt du côté de l'info bétonnée, de la science, de l'histoire, etc. Donc on va explorer à fond ces sujets-là. Mais on va pas partir dans le fantastique. Donc pour répondre à votre question, moi j'y fais hyper attention. Ouais.
Je vois qu'il y a d'ailleurs souvent un lien avec l'avenir dans vos romans. Je pense à l'avant-dernier roman que vous avez écrit l'année dernière, L'ultime avertissement. Là, il s'agissait de capsules temporelles. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. dans le roman qui est sorti là ce mois-ci. L'avenir, c'est une inquiétude pour vous ou plus quelque chose qui vous passionne et vous interroge ?
Qui m'interroge, c'est pas une inquiétude, parce que je pense que l'inquiétude, elle fige et elle permet de plus rien faire du tout. Non, c'est plutôt des questionnements et mes livres, en fait, ils posent des questions. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui m'amuse, moi, c'est d'essayer de repérer les grandes vagues civilisationnelles qui touchent notre société avant qu'elles deviennent des vagues. Voilà, c'est pas une prétention, c'est juste que c'est ce qui m'intéresse. Et donc, c'est de repérer les grands mouvements qui sont en train de se faire un peu, comme on dit, en sourdine, mais qui en réalité vont devenir très importants et vont complètement changer les choses dans notre monde. Et quand on les repère en avance, eh ben, on les identifie et on peut donc agir ou pas en fonction de ce qu'on a découvert, plutôt que de se laisser agir. Voilà, c'est un peu le sujet. Donc, c'est le mieux pour agir, c'est d'abord de se poser des questions, savoir si c'est bien, si on pense que c'est pas bien, si on pense qu'il faut le faire, si on voit ce qu'on peut le faire à moitié, etc., etc. Ce que j'aime pas, en fait, c'est quand on m'impose quelque chose que j'ai pas choisi, en fait, ou que je suis victime de quelque chose. Et justement, je me dis, en anticipant, on peut éviter peut-être ces choses-là, donc ça m'intéresse.
La question du livre comme vecteur de civilisation revient souvent, du coup. C'est quelque chose qui se perd petit à petit. On voit l'évolution du monde littéraire, le numérique, les audiobooks, la raréfication des librairies aussi aujourd'hui. Quelle piste vous voyez pour inverser la tendance ?
J'en vois deux pistes pour inverser la tendance de la chute de la lecture, qui une fois encore ne concerne pas, par exemple, les pays asiatiques. Et puis il y a l'Espagne pour qui ça se passe plutôt pas trop mal. Mais bon, sur les jeunes générations, globalement, c'est plutôt en chute. Alors, il y a des gens qui ont fait, là, il y a pas longtemps, une campagne qui disait... éteignez vos portables, allumez vos cerveaux, et moi je suis absolument contre cette vision-là que je trouve culpabilisante et à côté de la plaque, parce que je pense que ça veut dire aux gens vous êtes idiots si vous utilisez votre téléphone, les gens intelligents lisent, c'est pas comme ça que je pense qu'on va donner envie aux gens de lire. Simplement en rappelant deux choses, la première c'est que c'est un vrai plaisir, c'est un plaisir, c'est pas vous devez, c'est important pour la société, non c'est juste un plaisir, c'est-à-dire que même on sait que maintenant notre corps, quand on lit, il fabrique un neurotransmetteur qui nous apporte du bien-être, c'est la sérotonine, et ça veut dire qu'en fait au cours de l'évolution, ça fait quoi maintenant 5000 ans qu'on écrit, en tout cas qu'on a inventé l'écriture, on a petit à petit associé cet exercice-là à quelque chose qui nous fait du bien, quoi. Donc c'est le premier point. Le deuxième, c'est que je pense que les gens qui lisent pas, c'est surtout les jeunes, et qu'il faut aller les chercher là où ils sont. Et ils sont où ? Ils sont sur les écrans. Donc je pense qu'il faut pas éteindre les écrans forcément, même si je suis pour, par exemple, la limitation des réseaux sociaux. Et moi, pour moi, on devrait les interdire à au moins de 16 ans. Mais après, voilà, il y a une idée que j'avais soumise comme ça, qui je trouvais amusante. Je me dis, en fait, un mec comme Jul, par exemple, il écrit tous les jours. Il écrit des chansons, il écrit depuis des années. Là, il promet de faire une chanson par jour jusqu'à la sortie de son nouvel album. Moi, j'aimerais aller le voir et lui dire, écoute, ce serait génial si tu relevais ce défi-là d'écrire une chanson sur un livre que t'as adoré. Il a forcément lu des bouquins ou un bouquin qu'il a aimé. Et je trouverais ça génial parce qu'en fait, en réalité, on est dans deux univers artistiques similaires. C'est-à-dire que dans les deux cas, la musique comme l'écriture, on a envie d'apporter du plaisir aux gens et du bien-être. Là, le livre... il a un peu besoin de sa grande sœur, la musique. Et je me dirais que ça serait quelque chose d'assez fort s'il osait tenter ce défi, cette espèce de grand écart, quoi, je trouverais ça. Donc voilà les idées que j'ai aussi en tête. Et la dernière chose, c'est que je pense que nous, auteurs, on peut peut-être aussi se demander dans quelle mesure et pourquoi les jeunes vont peut-être pas plus lire nos livres et pourquoi on n'est pas assez désirable. Est-ce qu'il faut, je sais pas s'il faut qu'on change notre manière d'écrire ou est-ce qu'il faut qu'on change notre manière de communiquer ou qu'on ne change ni l'un ni l'autre et puis les gens vont y venir quoi qu'il arrive. Je sais pas, mais il y a peut-être une réflexion à poser là-dessus.
Je pense qu'il y a tellement d'autres choses qui existent maintenant aujourd'hui qui n'existaient pas forcément avant aussi ou beaucoup moins en fait. Je pense que ça joue beaucoup là-dessus.
Ouais, mais c'est pas pour autant que le plaisir du livre a disparu. C'est-à-dire que l'objet en lui-même reste un plaisir immense. Si vous voulez un truc, moi, si vous me parlez par exemple du scrolling sur les réseaux sociaux, qui est un truc que les gens font à la place de lire, le scrolling sur les réseaux sociaux, ça apporte des décharges de dopamine, donc ce qu'on appelle une hormone de la récompense, mais qui sont très très faibles. Et en fait, plus vous allez scroller, moins votre cerveau il va produire cette énergie-là, mais plus vous allez avoir envie de scroller parce que vous dites « Ah mais oui, mais j'en veux encore, mais on m'en donne pas beaucoup, etc. » Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Votre cerveau, il a enregistré que vous avez rien appris, vous avez rien compris, vous avez perdu votre temps, et il vous rend pas bien, il vous rend triste,
c'est vrai, en plus,
il vous rend vide. Oui, mais parce que c'est physique, physiologique, c'est qu'il produit pas la sérotonine dont je vous parlais tout à l'heure, qui est l'hormone de l'accomplissement. De ce qui se passe que dans la vraie vie, quand on a une envie, il y a la dopamine qui nous mène vers une action, on fait cette action, on a réussi, ou en tout cas il s'est passé quelque chose, il y a la sérotonine qui peut venir derrière. Lire, ça construit, c'est pareil, il y a une action, on a envie de lire, hop, on lit, on est rempli par une histoire, on vit des choses, on a des émotions, on a des paysages, on a tout qui travaille. Et hop, on a cette récompense. Et donc les jeunes qui écoutent, ils savent que très bien qu'ils se sentent vides à la fin d'un doom scrolling, quoi. Et je pense que si on cumule ça sur plusieurs mois, plusieurs années, bah, je pense que ça abîme énormément la santé mentale. Donc voilà, c'est juste dire, bah tiens, là t'as un objet qui va te faire du bien à côté d'un objet qui croit te faire du bien à un moment, mais qui en réalité te fait du mal.
J'ai juste une dernière petite question. Je sais que vous fuyez le syndrome de la page blanche. Est-ce qu'on peut s'attendre à une suite que vous avez déjà en tête sur ce roman-là ou
Je fuis le syndrome de la page blanche. Alors ça, j'ai jamais entendu ça.
Vous avez peur de ça un petit peu? Vous l'avez dit dans d'autres interviews.
Ah, j'ai peut-être. Alors, si je l'ai dit, je vous crois. Je pense que tout auteur, oui, à ça, parce qu'en fait, la création, c'est hyper fragile. On ne sait jamais vraiment si ça va venir ou pas. Alors, ça s'entraîne, ça se maintient, ça se tease, mais ça se fabrique pas, je pense. Si vous voulez, il y a deux manières de vivre après dans les livres. Moi, avant, c'est que avant même la fin d'un premier livre, pour pas avoir, comme vous disiez, ce problème de la page blanche, je pensais déjà à créer le livre d'après. Vous dites, ah bah c'est super et tout, mais sauf qu'en réalité, avec ce fonctionnement-là, on profite de rien en fait, parce que le livre qu'on a fini, on l'a même pas fini, qu'on est déjà en train de stresser pour écrire le livre 2, quoi. Et donc quand le livre A sort, bah, on n'en profite pas, parce qu'on se dit, oui, bah ok, très bien, mais moi je dois écrire le livre 2, puis hop, et après le livre 3 et machin, etc. Donc là, j'ai décidé de faire un peu les choses autrement, c'est-à-dire que je profite de la sortie de ce livre-là, on verra la suite.
D'accord, ok. Merci Nicolas Beuglet. On rappelle que votre dernier roman, Transylvania, qui est sorti ce mois-ci.
Merci.
Aux éditions XO Éditions.